France Musique.
Ce soir, sur France Musique, le concert de 20h traverse les frontières et vous emmène au Festival de Lucerne. Mozart et Schubert, deux compositeurs plébiscités par Riccardo Chailly à la tête de l'orchestre du festival. Mozart d'abord, avec l'ouverture de Don Giovanni et la symphonie numéro 40, la fameuse en sol mineur. Puis, la symphonie numéro 6 de Schubert. Chailly à Lucerne, dans Mozart et Schubert, c'est ce soir à 20h sur France Musique et francemusique.fr.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Bonjour, soyez les bienvenus sur France Musique dans nos programmes d'été. Un réveil en douceur pour retrouver dans un instant Musique Matin et notre cher Gabriel Oliver Aguillon. C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Oliver Aguillon, Musique Matin.
Lundi 23 août, merci d'être à l'écoute de France Musique. De bon matin, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et toute l'équipe de Musique Matin est ravie de vous retrouver une semaine de plus. Nous recevrons tout à l'heure à 8h30 la pianiste Shani Di Luca pour son concert à Soliste à Bagatelle. Et puis son récent disque Beethoven, une relecture avec sitar, tabla et piano. Dans 10 minutes, notre revue de presse, la part belle évidemment à la future panthéonisation de Joséphine Baker, une belle nouvelle historique. Et puis, le reportage de Marie Gicquel sur la rentrée des professeurs et élèves en conservatoire. Une rentrée particulière à réinventer qui approche à grands pas. À 7h50, tentez de gagner le disque Firenze 1350 de l'ensemble Solazzo. À 8h, le journal d'Olivier Denré. À 8h10, notre tour de France des festivals. Direction ce matin, Coutances, pour le festival Jazz sous les pommiers qui commence mercredi. Et puis, à 8h25, notre place à la création. Eh bien oui, la musique est vivante. Ce matin, une œuvre pour marimba de 1996 d'Emmanuel Séjourné. Nous espérons que votre week-end a été serein, joyeux, ensoleillé et curieux. Nous sommes lundi, il est 7h31 et nous vous l'assurons, cette matinale sera sereine, joyeuse, ensoleillée et curieuse. À commencer par Jean-Sébastien Bach, évidemment.
Thank you.
L'Allegro Adagio du concerto brandebourgeois numéro 3 en sol majeur BWV 1048 de Jean-Sébastien Bach par l'ensemble Zefiro dirigé par Alfredo Bernardini. Est-ce que vous êtes vers le lac d'Annecy? Quelle chance! Est-ce que vous êtes disponible à la fin de la semaine, les 26, 27 et 28 août? Quelle chance également! Les Variations Classiques, Festival de Musique Classique d'Annecy, vous propose 7 concerts gratuits, salle Pierre Lamy, au cœur historique de la ville, au programme 3 cartes blanches, l'une à l'orchestre Appassionato de Mathieu Herzog, l'autre au violoniste Jean-Marc Philips Varjabédian, et la troisième carte blanche à la pianiste Vanessa Wagner. 3 concerts le même jour, pour elle, ce samedi 28, 11h, seule avec Mendelssohn, Grieg et Tchaïkovski. À 18h, elle convie Arthur Ashe à ses côtés. Et à 21h, le musicien Electro Murkoff. Donc à ne pas manquer après ou avant la baignade au lac d'Annecy. Vanessa Wagner, que nous écoutons ce matin à 7h38, une courte pièce de la compositrice et pianiste Émilie Leviennaise Fauche.
Thank you.
sur France Musique. La pianiste Vanessa Wagner dans cette pièce Louella, composée par Émilie Leviennaise Farouche.
C'est l'été sur France Musique.
7h40, notre reportage dans quelques instants et tout de suite la revue de presse de Musique Matin.
Nous disons, nous croyons tous que nous appartenons à une seule race humaine, la fraternité. Surtout, il y a tellement de conflits internationaux, n'est-ce pas, de racisme et tas de choses vilains. Et alors nous, mes enfants et moi, nous avons voulu prouver que si on veut, on n'a pas besoin de se tuer ou entretuer. Non, on peut s'aimer si on veut bien.
Une interview de Joséphine Baker par Denise Glaser en 1968, interview très touchante. Régis Debré, en 2013, en était plus convaincu que jamais. Joséphine Baker mérite les honneurs du Panthéon. Elle est à la hauteur d'une héroïne. Je crois que la France s'honorerait à la panthéoniser. Marc Voinchet, sur France Culture, lors d'une de ses matinales en 2014, l'espérait tellement. Cette année, France Musique, le jour de son anniversaire, le 3 juin 1906, avait mis à l'honneur cette grande dame en écho au lancement de la compétition Osez Joséphine pour la faire entrer au Panthéon. Eh bien, c'est oui, nous l'avons appris hier. Emmanuel Macron a décidé de panthéoniser l'artiste franco-américaine arrivée à Paris à l'âge de 19 ans. Joséphine Baker, qui a adopté 12 enfants du monde entier, meneuse de revue dans les années 30, militante de la liberté et l'égalité, résistante auprès du général de Gaulle, elle a marché aussi aux côtés de Martin Luther King en 1963 en faveur de l'égalité des droits. Joséphine Baker sera la première femme noire à reposer dans ce temple républicain. C'est tout un symbole. La cérémonie se tiendra le 30 novembre, date de mariage avec l'aviateur et homme d'affaires Jean Lion. Après Simone Veil, en 2018, Macron a donc choisi une autre figure engagée. Tous les journaux en parlent évidemment, mais nous vous invitons à réécouter les émissions du 3 juin qui avaient consacré une grande partie de son antenne sur France Musique à Joséphine Baker, dossier sur notre site, ainsi qu'une très belle vidéo à voir sur Joséphine Baker, à retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux de France Musique. Nous apprenons également ce matin la disparition via l'opéra de Marseille du ténor marseillais Charles Burle, né en 1936 dans le quartier du Panier, l'un des magnifiques ténors légers français, comme le dit le site forumopéra.com, des débuts à Toulon en 1958 dans le Barbier de Séville, aussi aux côtés de Tony Poncet, puis à l'opéra comique en 1969, le postillon de Longjumeau par exemple, un répertoire de chansons françaises aussi qu'il connaissait si bien. Dès 1996, Charles Burle s'oriente vers des rôles de composition et se consacre aussi dès les années 2000 à l'enseignement. Benoît Dutertre l'avait interviewé dans une émission qu'il lui avait consacrée en 2012, émission à la réécoute « Étonnez-moi Benoît » au 27 octobre 2012. Une autre disparition dont on a eu connaissance hier soir, Michael Morgan, un chef d'orchestre de longue date de 30 ans de l'Auckland Symphony, décédé à l'âge de 63 ans vendredi dernier. Il était revenu à la direction le mois dernier pour le San Francisco Symphony and Bear Valley Music Festival après une greffe de rein. Et dans une déclaration publiée sur Facebook, l'Auckland Symphony s'est souvenu de Michael Morgan pour une carrière décorée qui avait traversé le pays, ainsi que pour l'héritage et son engagement communautaire qu'il a encouragé localement après être devenu directeur musical et chef de l'orchestre en 1991. C'est un moment terriblement triste pour tout le monde, a déclaré Miiko Atano, directrice exécutive de l'Orchestre Symphonique d'Auckland. Et puis nous restons aux États-Unis avec cet article de Diapason. Les orchestres américains s'engagent vraiment pour la diversité. Au cours de la saison 2021-2022, 23% des œuvres programmées par les orchestres américains ont été composées par des femmes ou des musiciens de couleur. Un chiffre qui dénote une évolution sensible et qui n'est pas sans susciter quelques débats. Esa Pekka Salonen à l'Orchestre Symphonique de San Francisco, Ricardo Muti à l'Orchestre de Chicago ou encore Jaap van Zweden au Philharmonique de New York. Et au-delà de ces concerts symboliques, c'est une véritable lame de fond qui s'abat sur la programmation de ces orchestres américains et qui suscite quelques réactions. Par exemple, l'essayiste Esther MacDonald qui a signé un long texte intitulé « Classic Music Suicide Pact » dans lequel elle analyse et dénonce la façon dont les orchestres et théâtres lyriques se soumettent aux diktats de la pensée décolonialiste. C'est à lire sur diapasonmag.fr. Et puis, nous sommes à quelques jours de la rentrée des conservatoires. Les inscriptions ont lieu cette semaine en France. Les retrouvailles entre professeurs et élèves seront sans doute très enthousiastes après une saison bousculée. Mais les équipes pédagogiques n'ont reçu aucune directive claire de la part du ministère de la Culture. une situation inconfortable pour les enseignants. Un reportage de Marie Jiquel.
La partition de cette rentrée sera encore complexe à jouer pour les conservatoires. À la fin de l'année dernière, les cours avaient repris normalement, avec les gestes barrières évidemment. Des classes de musique un peu délaissées par les élèves adultes, c'est ce que constate Anne-Cécile Coignard, enseignante de formation musicale au conservatoire de Troyes. Pour cette rentrée, elle tâtonne.
C'est très compliqué parce qu'on n'a pas vraiment d'informations. Celles qu'on a sont glanées essentiellement sur les réseaux sociaux ou par le bouche à oreille. Parce qu'il n'y a encore rien de concret. Et donc tant qu'il n'y a rien de concret, bah, c'est vrai qu'au niveau de l'administration, il n'y a pas vraiment de décisions qui sont prises et qui nous sont communiquées. Moi, je prépare mes cours en essayant de me dire s'il y a du distanciel, sur quoi je peux m'appuyer, quels documents je peux vite donner à la rentrée à mes élèves.
Geste barrière, passe sanitaire, il n'y a pas eu de consigne directe. Maxime Lesquiera est vice-président de l'association Conservatoire de France et également directeur du Conservatoire de Bordeaux.
Cette question du pass sanitaire, et pour le coup là il y a encore un peu de flou on va dire dans l'interprétation des textes et du décret pour ce qui concerne les activités des conservatoires, à savoir que les élèves en seraient dispensés pour toutes les activités d'enseignement que nous prodiguons. Par contre, pour les enseignants, ce n'est pas encore très très clair.
Pour les auditions et les concerts, la règle est la même que pour tous les événements culturels, avec un contrôle du pass sanitaire pour le public. Côté programme, les professeurs ont abandonné les chansons autour du coronavirus. Ils privilégient les thèmes autour de l'amitié et de la solidarité. C'est ce que nous confie Anne-Cécile Coignard.
D'un côté, on a envie de faire plein de choses et puis on se dit oui, mais si on est bloqué, on essaie d'anticiper, donc on se restreint un petit peu quand même.
La crise n'a pas eu d'impact sur le nombre d'inscriptions, mais Maxime Lesquiera l'admet, les conservatoires n'ont pas été mentionnés dans le plan de relance qui promet 2 milliards d'euros pour le secteur culturel.
On ne s'est pas senti délaissé, mais c'est vrai que dans le cadre du plan de relance du ministère de la Culture, il n'y a pas eu d'aide spécifique pour les conservatoires qui, dépendant des collectivités locales, l'État a laissé, on va dire, les collectivités locales s'en charger. Donc après, localement, on va dire, suivant les villes, il y a pu y avoir un impact sur les finances du conservatoire avec des demandes faites par les collectivités d'économie.
L'Association des conservatoires de France se rassemble dès aujourd'hui pour évoquer les conditions d'accueil de ses élèves musiciens.
Un reportage de Marie Jiquel à réécouter sur notre site francemusique.fr. Et à 7h47, en ce lendemain de jour historique où nous avons appris la panthéonisation de Joséphine Baker, prévue le 30 novembre prochain, il nous semblait essentiel de l'écouter encore et encore.
Quatre fois par jour, par douzaine, des messieurs très amoureux me proposent une vie de reine pour que je me donne à eux. Y'en a qu'un qui a su me plaire. Il est méchant, il n'a pas le sou. Ses histoires ne sont pas claires. Je sais bien, mais je m'en fous. Pour moi, y'a qu'un homme dans Paris seul. J'peux rien y faire, mon cœur est pris par lui. Je crois j'en perds la tête, il est si bête qu'il ne l'a pas compris. Pour moi y'a qu'un homme dans Paris seul, je passerai dans un trou de souris pour lui. Chaque jour je l'adore, bien plus encore. Pour moi y'a qu'un homme dans Paris, hey, c'est lui. Moi, y'a qu'un homme dans Paris. Il court après toutes les filles. Elles sont toutes à sa merci. Son regard les déshabille. Ses mains parfois aussi. Je ne fais rien
C'est lui, pour moi, il n'y a qu'un homme dans Paris, la voix de Joséphine Baker dans cette chanson, c'est lui. Et pour bien démarrer la semaine, en plus de Joséphine Baker, et comme nous en avons l'habitude chaque matin depuis le début de l'été à la même heure, 7h51 là tout juste, nous vous offrons des disques, c'est à vous de jouer maintenant. A gagné ce matin le disque temps, le disque Firenze 1350, un jardin médiéval florentin du Solazzo, ensemble un disque Ambronay paru l'an dernier. Pour gagner, vous répondez à la question que je vais vous poser, vous nous écrivez via l'onglet Contactez-nous sur la page de notre émission Musique Matin francemusique.fr. Évidemment, n'oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées complètes. Alors voici la question. L'ensemble Solazzo est-il un ensemble de Florence en Italie, de Coimbra au Portugal ou de Bâle en Suisse? Le Solazzo ensemble est-il un ensemble italien, portugais ou suisse? La bonne réponse sera donnée et dévoilée juste avant 9h avec le nom des gagnants. Vous pouvez participer jusque-là. Merci d'être nombreux chaque jour à participer. Donc, on écoute un extrait de ce disque qui sera peut-être dans votre boîte aux lettres. Un disque qui nous mène au cœur de Florence, là, cité en pleine ébullition humaniste et culturelle dans la deuxième moitié du XIVe siècle avec cette pièce de Francesco Landini.
Thank you.
Il convient d'être fidèle à la fidélité pour aimer celui qui aime. C'était Conviensi a fede de Francesco Landini, interprété par le Solazzo Ensemble, dirigé par Anna Danilevskaya. Un extrait du disque que nous vous offrons ce matin. Aujourd'hui, 23 août, un compositeur français fête son anniversaire, 60 ans aujourd'hui. Un musicien qui a reçu des Césars, des Oscars, des Grammy Awards, des Golden Globes, eh bien c'est Alexandre Desplat, qui est né à Paris le 23 août 1961. Lui qui a composé les musiques des films de Rouillé d'os, Le discours d'un roi, De battre mon cœur s'est arrêté, The Grand Budapest Hotel, Tree of Life, Harry Potter et les reliques de la mort ou encore Godzilla. Il a enregistré certaines de ses œuvres avec l'un de nos orchestres maison, l'Orchestre National de France pour Valérian, entre autres. Voici ce matin un extrait de son disque Airlines pour souffler ses bougies avec lui. Il fallait au moins ça pour les 60 ans d'Alexandre Desplat. Écoutez sa très belle musique. Version pour flûte traversière et orchestre de la musique d'Alexandre Desplat, The Grand Budapest Hotel, interprétée par l'Orchestre National de France, avec Emmanuel Pahut à la flûte traversière et le compositeur lui-même à la direction. 7h59, Musique Matin, nous revenons dans quelques instants.
Sur francemusique.fr, retrouvez une salle de concert virtuelle, gratuite et illimitée. Plus de 4000 œuvres à écouter et à voir. Symphonique, jazz, création et des concerts des quatre formations maison enregistrés à l'auditorium de Radio France. En un clic, chaque semaine, une sélection de concerts en vidéo, des compositeurs à la une, les œuvres les plus écoutées. Soyez aux premières loges sur francemusique.fr.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique lundi 23 août, il est tout juste 8h. À 8h, l'heure des informations présentées par Le Retour, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. Une semaine après leur entrée dans Kaboul, des centaines de talibans ont pris la route pour la vallée du Panjshir, territoire historique de résistance où le fils de l'iconique commandant Massoud tente de marcher dans les pas de son père. Ahmad Massoud dirige en effet avec d'autres le FNR, le Front National de Résistance. Il dit avoir à ses côtés des milliers d'Afghans prêts à se battre contre le nouveau régime. Ahmad Massoud qui demande à la communauté internationale de le soutenir en lui fournissant notamment des armes. Mais pour l'heure, les grandes puissances occidentales tentent avant tout de gérer l'urgence, en l'occurrence l'évacuation de leurs ressortissants et des Afghans qui depuis 20 ans maintenant ont choisi de travailler avec elles. Il y a quelques heures maintenant, le président américain a une nouvelle fois pris la parole, très critiqué depuis le retour au pouvoir des talibans. Joe Biden répète inlassablement le même message.
Une incroyable opération, affirme Joe Biden à propos du pont aérien en cours. Depuis le 14 août, dit-il, 28 000 personnes ont été évacuées de l'aéroport de Kaboul par les Américains. Le message du président, lui, ne bouge pas. Le retrait de ses troupes n'aurait pas pu se faire sans entraîner une forme de chaos. Nous rapatrions nos ressortissants, nos alliés de l'OTAN, les Afghans qui nous ont aidés durant la guerre, mais ce n'est que le début et beaucoup de choses peuvent encore mal tourner. L'évacuation de milliers de personnes de Kaboul sera difficile, pénible. Et peu importe quand les opérations ont débuté, il y a un mois ou dans un mois, la situation aurait été la même. On ne peut pas évacuer tant de monde sans douleur, sans perte, sans ces images filmées à l'aéroport qui nous brisent le cœur. Voilà les faits. Pas de regret donc, et même si Joe Biden reste flou sur plusieurs points sensibles. Quel sort réservé aux dizaines de milliers d'Afghans pris en tenaille entre les talibans et les portes closes de l'aéroport? Combien d'Américains encore perdus dans la nature? La date butoir en fin du 31 août pour un retrait complet sera-t-elle respectée? Nous espérons que nous ne devrons pas prolonger, répond lacunaire le président américain, mais je pense qu'il y aura des discussions.
La situation afghane serait en tout cas le principal sujet évoqué demain à l'occasion d'un sommet virtuel du G7 dont la présidence est actuellement assurée par le Royaume-Uni. En amont de cette réunion, le Premier ministre britannique a d'ailleurs échangé hier avec les présidents turcs mais aussi l'émir du Qatar pour évoquer avec eux la délicate question de l'aide aux réfugiés. Toujours pas de gouvernement en Tunisie et l'armée continue de bloquer l'accès à l'Assemblée. Le président qui s'est octroyé les pleins pouvoirs avait pourtant promis qu'il nommerait un mois plus tard une nouvelle équipe pour gérer les affaires du pays. Ce coup de force qui perdure inquiète une partie de la société civile. Plus de 2000 morts en Haïti où 600 000 personnes ont été directement touchées par le tremblement de terre survenu il y a bientôt 10 jours dans le sud-ouest du pays. Sur place, l'aide humanitaire est la cible de bandes armées, ce qui ralentit considérablement son acheminement. Plus de 70% de la population française a désormais reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19. C'est ce qu'indique la Direction Générale de la Santé. Ça représente près de 47,5 millions de personnes. Les autorités sanitaires précisent par ailleurs que le nombre de malades du coronavirus dans les services de réanimation a lui dépassé les 2000 patients. Depuis le début du mois, la courbe des hospitalisations ne cesse d'augmenter, ce qui soulève évidemment de nombreuses questions à quelques jours maintenant de la rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a donc tenu à préciser un certain nombre de choses dans un entretien accordé hier à nos confrères du JDD. Lise Lacombe.
Pour cette rentrée scolaire, le protocole sanitaire dit de niveau 2 sera déployé, ce qui signifie que les cours auront lieu en présentiel. Le masque sera obligatoire en intérieur, une limitation du brassage des élèves sera organisée et l'aération des salles renforcée. Une campagne de vaccination sera menée dès la rentrée auprès des élèves non vaccinés de plus de 12 ans. Les adolescents volontaires pourront se rendre dans des centres de vaccination proches de leur établissement. Des équipes mobiles se déplaceront également au sein des collèges et lycées. Contrairement à ce qui avait été évoqué, Jean-Michel Blanquer précise que le pass sanitaire ne sera pas obligatoire à l'école pour les élèves comme pour le personnel. Si un cas de Covid se déclare dans une classe de collège ou de lycée, les élèves non vaccinés devront s'isoler une semaine et suivre les cours en distanciel. Pour la maternelle et le primaire, c'est toute la classe qui devra quitter l'école. Face à l'inquiétude concernant les sorties scolaires, le ministre de l'Éducation a voulu rassurer. Les enfants qui n'ont reçu aucune dose de vaccin pourront y participer si le lieu ne les met pas en contact. contact avec du public. Dans le cas contraire, au musée par exemple, ils devront fournir un test négatif. Il reste à savoir qui devra payer quand le test ne sera plus gratuit en octobre. L'organisation de la campagne de vaccination, le suivi des élèves à distance ou encore les moyens financiers déployés par le ministère pour mettre en place ces annonces. Autant de questions auxquelles devra répondre Jean-Michel Blanquer mercredi face aux syndicats d'enseignants et aux organisations de parents d'élèves.
La météo de ce lundi 23 août 2021, des nuages et quelques pluies sur le nord-est de la France. La situation va s'améliorer au fil de la journée. Le ciel sera variable de la Bretagne aux Alpes et puis il fera beau sur le sud. Les températures de 12 à 24 degrés ce matin et de 20 à 33 degrés cet après-midi. Gabriel Oliver Aiguillon, 33 dans le Var.
Ah oui, donc pas à Paris quoi.
Non, pas à Paris.
Toujours pas. Hein,
toujours
non,
pas. À tout à l'heure. Vos moufles, à tout à l'heure.
Midi et puis nous on se retrouve demain à 8h.
C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Oliver Aiguillon, Musique Matin.
Bienvenue dans notre émission qui vous accompagne toute la semaine de 7h30 à 9h. Musique, actualité, invité, disques, cadeaux et concerts de l'été. Notre invité à 8h30, la pianiste Shani Di Luca qui sera ce dimanche en concert au Soliste à Bagatelle et qui nous ouvre le monde de Beethoven à l'Inde, de la musique de chambre à la poésie du Sri Lanka jusqu'à la musique d'aujourd'hui. La musique sans aucune frontière. À 8h25, place à la création. Consacré ce matin à un compositeur et percussionniste, Emmanuel Séjourné, il lancera question de percussion puisque nous écouterons ensemble Katamiya pour Marimba. Rendez-vous donc dans 20 minutes. Et puis dans 5 minutes, notre tour de France des festivals direction la Manche, à Coutances précisément pour le fameux festival Jazz sous les pommiers. Ravi de vous accompagner avec toute l'équipe de Musique Matin. Nous vous souhaitons une très belle matinée à l'écoute de France Musique.
Thank you.
Le troisième mouvement, Menuetto Allegretto de la symphonie numéro 40, en sol mineur, Köchel 550 de Wolfgang Amadeus Mozart, interprété par l'ensemble Appassionato, dirigé par Mathieu Herzog. Des musiciens qui seront en concert ce vendredi 27 août au festival Offenbach d'Étretat, festival qui a eu lieu 3 jours en juillet, et une date unique en août, c'est donc dans quelques jours, le 27, dans le cadre du thème cette année, l'amour de la voix, un programme Jacques Offenbach et la musique viennoise. Nous restons au bord de la Manche, mais bien plus à l'ouest, direction Coutances, en Seine-Maritime, pour notre Tour de France des festivals. Et à Coutances, sous les pommiers, il y a Jazz sous les pommiers. Bonjour Denis Lebas.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur de ce festival Jazz sous les pommiers qui célèbre cette année, cet été, sa 40e édition, 5 jours de concert et ça commence ce mercredi 25 août et jusqu'au 29. Alors à 2 jours du coup d'envoi, comment êtes-vous, Denis Lebas?
Ben, je suis impatient parce que ça a été quand même un petit parcours du combattant pour aller au bout. Et là, on a envie de vivre ça et de partager ces grands moments de musique avec le public, avec les artistes. Donc oui, j'ai hâte que ça démarre.
À quelques jours de la rentrée, les gens rentrent chez eux. Il y a encore des vacanciers. Là-bas, le public répond présent. Vous avez une billetterie qui fonctionne bien?
Elle fonctionne pas mal, mais il reste quand même largement de quoi faire. Donc, on peut encore se décider de venir sous les pommiers. Il y a possibilité d'acheter des billets sur la plupart des concerts.
Alors, une programmation cet été qui a dû s'adapter aux contraintes que l'on connaît, j'imagine, Denis Lebas, pour Jazz sous les pommiers.
Oui, c'est ça. Le festival, normalement, a lieu en mai, comme vous le savez. Là, ça devient un festival estival, resserré sur 5 jours, mais avec les lieux habituels de Jazz sous les pommiers, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, la cathédrale, le Magic Mirror. Enfin, voilà, six lieux différents. Et puis, effectivement, la différence, c'est qu'il faudra présenter son pass sanitaire. Mais bon, on y est presque habitué maintenant.
Et au niveau des musiciens, vous invitez quand même des musiciens de 22 nationalités différentes.
Tout à fait.
Vous avez réussi.
Oui, écoutez, on s'est bagarré, mais ils seront là. Il y a effectivement beaucoup plus d'Européens que d'habitude, mais quand même des formations qui viendront d'un peu plus loin. Et puis beaucoup de musiciens français, puisqu'on a la chance en France d'avoir une richesse de musiciens de jazz, donc pas forcément besoin d'aller les chercher tous très loin.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de ces musiciens que nous pourrons voir à Jazz sous les pommiers?
Oui, bien sûr, il y aura le grand pianiste, un des derniers grands, Kenny Barron en trio, il y aura le sextet d'Henri Texier, il y aura Sylvain Rifflet, Naïssam Jalal, et puis des créations, puisque c'est quand même un des ADN de notre festival. Il y aura 7 créations, dont une qui va réunir tous les anciens résidents sont venus sur des longues durées à Coutances, donc R.L. Besson, Anne Passeo, Louis Winsberg, Yves Rousseau, Thomas de Pourquerie, Andy Shepard, Franck Tortillet, et puis les deux nouveaux, on a deux nouveaux résidents.
Oui, deux nouveaux résidents.
Le violoniste Théo Secaldi et le tromboniste Fidèle Fourneron, là, ça fera un groupe de 10 qui vont jouer jouer tous ensemble les compositions proposées par les uns ou les autres. J'ai vu une répétition, ce sera merveilleux. Ça, c'est mercredi. Et puis, on a aussi des plateaux inédits, Balaké Sissoko avec Pierre Sacchini, Vincent Segal et Sona Jobarté par écran interposé. Le groupe cubain et le comité qui invite Fidèle Fourneron, Manu Katché avec des invités. Enfin voilà, il y a une belle programmation.
Et une programmation qui sera en partie diffusée sur notre antenne. Par exemple, le concert de Manu Katché, ça ce sera mercredi. Mais toute la fin de semaine, justement, nous accompagnons, en étant partenaire France Musique, votre festival Jazz sous les pommiers avec des concerts en direct toute la fin de semaine. Voilà, mais évidemment, toutes les infos sur notre site. Concert inédit aussi de Yael Naïm, vous lui offrez une carte blanche mercredi, après-demain à 18h30.
Exactement, Yael va nous présenter un tout nouveau programme avec une nouvelle équipe emmenée par Christophe Panzani, le saxophoniste bien connu des amateurs de jazz. Et puis on va découvrir ça, c'est sympa de nous faire ce cadeau-là pour le 40e. Et puis je terminerai en disant que c'est un vrai festival chez nous. C'est-à-dire, il y a des concerts, mais il y a aussi des villages où on peut manger, il y a des spectacles de rue, il y a du cinéma, là voilà, c'est toute la ville qui vit au rythme du festival, donc je crois que c'est aussi sympa, avant la rentrée, comme vous le disiez, d'aller se refaire un dernier petit bol de musique.
Absolument, des scènes de rue, des spectacles gratuits partout dans la ville, et puis les lieux dont vous avez parlé. Puis il y a eu, on va en parler de ça, des changements de dernière minute aussi, on a su que Balaké Sissoko allait venir.
Oui, c'est ça, Donald Jobarteg qui vit à Londres ne viendra pas. C'est vrai que pour les groupes anglais, c'est quand même, ça reste encore un peu compliqué. Et donc, Balaké Sissoko viendra avec son groupe, et puis trois invités, le guitariste chanteur d'origine italienne Pierce Faccini, le bien connu violoncelliste Vincent Segal, et puis Sona Jobarté, elle sera par écran interposé, elle sera dans son appartement à Londres, mais on la verra sur l'écran en direct à Coutances jouer quand même avec Balaké.
Ah.
On va essayer de contourner les obstacles de la pandémie.
Merci beaucoup Denis Lebas. Je rappelle que votre festival Jazz sous les pommiers a lieu cet été du 25 au 29 août et France Musique donc diffusera une grande partie de ses concerts présentés par Alex Dutille et Yvan Amar à suivre cette semaine donc sur certaines soirées. Et nous vous souhaitons un très beau festival avec plein de gens, plein de musique, plein de bonheur. Merci beaucoup Denis Lebas.
Ben merci à vous et merci à France Musique de nous accompagner fidèlement.
Oh,
fabuleux titre d'Erel Besson, Wild Animals, avec Benjamin Mousset, Isabelle Serling, Fabrice Moreau et Erel Besson, évidemment, à la trompette. L'une des musiciennes qui sera avec 9 autres résidents, anciens résidents à Jazz Sous les Pommiers, concert donc le 26 août à Coutances et concert capté par nos équipes techniques France Musique et retransmis le lendemain, le 27, dans la soirée. Évidemment sur France Musique, présenté par Alex Dutille et Yvan Amar. Et en attendant le concert des résidents de Jazz Sous les Pommiers, il y a d'autres concerts. Et ce soir, justement, à l'affiche, 3 concerts inédits, 16h. Récital de la pianiste Natalia Milstein, donné dans le cadre du Festival de la Roque d'Anteron. Un concert présenté par Priscille Lafitte. À 20h, concert du Festival de Lucerne, enregistré il y a 10 jours, qui vous est proposé donc ce soir sur notre antenne avec l'orchestre du Festival de Lucerne, dirigé par Ricardo Chailly. Concert présenté par Anne Montaron. Et puis à 21h15, toujours par Anne Montaron, un concert avec Steven Isserlis, donné il y a quelques jours dans le cadre du Festival de Verbier. Et puis à 23h, direction Londres, la Round Chapel de Londres. Cette fois-ci, un concert présenté par Lionel Eskenazi. Et nous, ce matin, à 8h22, nous avons déjà très très envie d'être en Suisse, à Lucerne, sur le pont médiéval de la Chapelle, au bord du lac des Quatre Cantons, en écoutant Schubert.
Thank you.
Un extrait du troisième mouvement de la symphonie numéro 6 en ut majeur, Deutsch 589 de Franz Schubert, interprété par l'orchestre du Festival de Lucerne, dirigé par Ricardo Chailly. Un extrait du concert qui vous attend ce soir sur France Musique à partir de 20h. Musique Matin, 8h26, nous donnons aussi une belle place à la création chaque jour pour apprécier, découvrir, tendre l'oreille sur les œuvres composées en ce moment par des compositeurs et compositrices dont c'est le métier, passionné et curieux, ouvert et travailleur, attentif et passionnant. Place à la création, c'est maintenant.
Musique Matin.
Et ce matin, place à Emmanuel Séjourné, un compositeur et percussionniste né en 1961, évidemment très sollicité par le milieu de la percussion. Il compose par exemple pour les percussions claviers de Lyon, pour des solistes de renom. Il a lui-même aussi une importante carrière internationale comme soliste et chambriste, incluant évidemment la création de plus d'une centaine d'œuvres. Il est désireux de faire partager, communiquer sa passion. Il est responsable pédagogique du département percussion au Conservatoire de Strasbourg et à l'Académie supérieure de musique de Strasbourg, Haute École des Arts du Rhin. Et ce matin, je vous propose son œuvre pour marimba, Catamilla, qui fait partie d'un recueil de compositions pour marimba solo. À la demande de Siegfried Fink, chaque membre du jury du concours international de marimba du Luxembourg en 1996 devait composer une courte pièce. Voici celle d'Emmanuel Séjourné, qu'il a intitulée Catamilla, parce que le concours avait décerné deux premiers prix ex aequo à l'époque, Katarzyna Mika et Momoka Camilla. Et bien voilà, le titre Catamilla est donc la contraction de leurs deux noms. Catamilla, une œuvre composée en 1996 par Emmanuel Séjourné, œuvre pour marimba et à l'instant percussionniste Katarzyna Mika. 8h30 tout juste, il est donc l'heure d'accueillir notre invité.
Musique Matin, le 7h30, 9h de Gabriel Olivera Guyon.
Notre invitée, la pianiste Shani Di Luca. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous serez en concert ce dimanche 29 août à 16h au Festival Les Solistes à Bagatelle. Un programme Beethoven, Schubert, Liszt et Wolfgang Rim. Une édition cette année un peu spéciale qui aurait dû avoir lieu l'an dernier, les 20 ans du Festival Les Solistes à Bagatelle, qui accueille donc pour l'occasion 12 musiciens, dont vous, Shani Di Luca, des musiciens qui ont fait leur premier pas au festival au début des années 2000. C'était quand pour vous la première fois ?
La première fois dans ce festival en 2002. Donc pour moi c'était aussi mon premier récital à Paris, j'étais encore étudiante. Oui. Donc je n'oublierai jamais en fait.
Ils vous ont fait confiance.
Récital. Oui, vraiment c'est une sorte de tremplin. D'ailleurs cette année-là, je crois que ça a été un peu déclencheur parce que René Martin m'avait aussi remarqué la même année. Je me souviens qu'après le concert de Bagatelle, le Classica Répertoire avait fait un portrait, un disque sur moi. Donc c'est vrai que c'était vraiment mon premier grand récital à Paris en tant qu'étudiante et Anne-Marie Rébi elle m'a fait confiance dès le départ.
Mmh. Vous vous rappelez le programme que vous jouiez en 2002?
Alors, j'ai fait un programme Brahms, les Intermezzi opus 118, et en musique contemporaine, donc puisque ça, c'est vraiment une des marques du festival.
Absolument.
Et c'était Tristan Murail, c'était Mandragore.
Et donc, vous en avez parlé, comme pour tous les concerts solistes à Bagatelle, un compositeur contemporain à l'honneur. Et vous, pour cette année, c'est Wolfgang Rim, pardon, et son Ländler, une pièce de 1979. Alors, je sais que vous avez travaillé, collaboré avec le compositeur directement, Wolfgang Rim. Pourquoi cette œuvre-là, précisément, dans votre programme cet été?
Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer au Festival de Davos, où il était en résidence. J'avais joué plusieurs de ses œuvres, notamment des Klavierstück, qui étaient toujours une filiation très intéressante chez Wolfgang Grimm avec la tradition beethovenienne. Et là, en l'occurrence, le Ländler, c'est un lien avec Schubert. Et mon programme est construit à peu près autour des compositeurs viennois, donc je dirais Schubert, Beethoven, Liszt, dans le sens que Liszt fera une transcription des leaders de Schubert. Et il était très intéressant d'associer pour moi l'œuvre de Wolfgang Grimm, le Ländler, même si c'est 1979, on voit les prémices de son écriture, ce lien avec le passé, sa modernité, et il y a vraiment une relation organique avec la musique de Schubert, donc que je joue au préalable, donc j'ai choisi de mettre en une sorte de transcription du Quatuor Rosamund, du Scherzo, qui apparaît de façon fantomatique dans cette pièce de Ländler de Wolfgang Grimm. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec le Festival des Serres d'Auteuil, c'est que, Serres d'Auteuil au départ, maintenant Bagatelle, oui. C'est que dès le départ, Anne-Marie et Rébi tenaient à mettre la musique contemporaine au cœur du programme. Et en tant que jeune pianiste, c'était très inspirant aussi d'être à l'écoute de notre temps, face à un répertoire sacré, presque ancestral, mm-hmm. et d'arriver à composer un programme. Je trouve que c'est vraiment très important qu'on ait ce pied dans le monde actuel.
On en est bien d'accord, nous ici aussi à Musique Matin, puisqu'à 8h25, juste avant de recevoir nos invités, on écoute aussi la musique qui se fait justement aujourd'hui. Et puis pour revenir à Schubert, vous me disiez que jeudi ou vendredi, vous alliez interpréter Schubert déjà en Autriche.
Oui, en fait, c'est une semaine un petit peu où
c'est
je
intense.
Reviens à l'Autriche. En fait, j'étais pendant 2 ans pratiquement à Vienne. Je viens de rentrer à Paris. Et là, je retourne au fameux Schubertiade de Schwarzenberg, où je joue là depuis plusieurs années. Et je vais jouer la truite de Schubert avec un quatuor berlinois qui s'appelle Manderling Quartet. Et ça va être enregistré par la Radio Nationale Autrichienne. Donc, je vais un peu courir de l'Autriche, en tout cas
à l'Orangerie de Bagatelle.
Voilà.
Pour ce week-end.
Tout à fait.
Les solistes à Bagatelle, donc vous serez en concert Chani Di Luca ce dimanche 29 août à 16h.
Thank you.
À 8h37 sur France Musique, la délicatesse, la sensualité de cette pièce lyrique pour piano d'Edvard Grieg, souvenir opus 71 numéro 7 par notre invitée ce matin, Shani Di Luca. Shani Di Luca, vous nous disiez que c'est la dernière des pièces lyriques pour piano de Grieg, il y en a peut-être 50, 60, et elle est en lien avec la toute première de ces pièces lyriques.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est assez magique avec ces pièces lyriques, c'est un petit peu le journal intime de Grieg qui l'a accompagné toute sa vie. Oui. Et la toute première pièce des pièces lyriques, c'est exactement la même œuvre, sauf que c'est en binaire, de façon presque schumannienne, et une sorte de question qui va ouvrir tout ce cahier de pièces lyriques. Et puis, il choisit de terminer à la fin de sa vie avec les mêmes harmonies, sauf que ça sera en ternaire, une sorte de valse oubliée, en suspens, comme une question philosophique qui ne trouvera jamais de réponse. Mmh. Et je trouve ça très émouvant, en fait, d'entendre la première et la dernière pièce, là, en l'occurrence, Souvenir.
La dernière. Et vous l'avez enregistré, ce disque, sur le piano de Grieg, dans sa maison.
Oui, si on écoute attentivement, le son est un peu particulier.
C'est à Bergen, donc.
C'est son Steinway de 1892, dans sa maison à Bergen, dans les fjords, et j'ai eu la chance d'enregistrer ses pièces lyriques sur son piano.
Et puis, Shani Di Luca, il y a votre nouveau disque, Cosmos, on vous a entendu ici au micro de Jean-Baptiste Urbain pour en parler, mais on va en parler nous aussi parce qu'on veut l'écouter. Sorti en février dernier, un voyage beethovenien en Inde, en Orient, où vous êtes accompagné de musiciens indiens. La rencontre entre les grandes sonates de Beethoven et les ragas indiens, un lien que vous n'avez donc pas inventé.
Non, pas du tout. En fait, quelque part, je viens d'une tradition avec des professeurs comme Leon Fleischer, Peraya ou les Alban Berg Quartet. Ce sont des gens qui sont un peu mes mentors. Et la tradition puriste beethovenienne, c'est de respecter avant tout l'œuvre. Mais le trajet est aussi dans la lecture des correspondances, dans l'étude des manuscrits, des facsimilés.
Et c'est là que vous avez découvert.
J'ai découvert que Beethoven était intéressé par la spiritualité indienne. À cette époque, en 1819, les premiers écrits indiens étaient traduits en Allemagne. Et avec Goethe, son grand ami, ils sont plongés dans ses écrits orientaux, donc notamment Hafez, le divan oriental occidental. Et puis les Upanishads, donc ce sont ces prières ancestrales indiennes que Beethoven a recopié lui-même à la main sur ses carnets et même souligné certains mots comme l'homme et l'univers. Et je me suis dit qu'un dialogue était vraiment intéressant, un petit peu dans la résonance de ce que faisait Menuhin avec Ravi Shankar, mais une sorte de dialogue où les grandes cultures se rencontrent dans une sorte d'élévation spirituelle. Donc c'était vraiment le but de ce disque un peu inédit et qui résonne évidemment avec mes origines personnelles, mais c'est surtout de voir
Vous êtes né de parents Sri Lankais.
Voilà, c'est ça. Donc, et je vais souvent en Inde. Et c'était aussi de montrer que, voilà, il y a un dialogue possible dans des cultures très lointaines lorsqu'on est à un certain degré d'élévation. Et je crois que, en concert ou en disque, j'ai vraiment eu un retour merveilleux de cette expérience.
Ouais. Vous êtes accompagné à la sitar par Mehboob Nadem et joueur de tabla Mitel Purohit.
Tout à fait.
Que l'on va donc écouter sur ce disque. Est-ce que ici, précisément, ce sont deux mondes qui se rencontrent et qui se comprennent, peut-être pour contredire Kipling qui disait, j'ai retrouvé ça hier, l'Orient c'est l'Orient, l'Occident c'est l'Occident, et jamais ces deux mondes ne parviendront à se comprendre.
Alors là, je le contredis. Alors, dans le sens où, effectivement, ces deux spiritualités qui semblent lointaines, mais justement, je pense que ce projet, et Menuhin et Shankar l'ont compris, c'est aussi, comme je vous disais, au moment d'une certaine dimension spirituelle et même organique, puisque quand on analyse de près les sonates beethoveniennes, ça part d'un leitmotiv qui se développe en forme sonate et on voit tout le développement de ces éléments, et c'est exactement la même construction dans les ragas. Le raga part d'un intervalle, et dans la construction on retrouve le nombre d'or, on retrouve le climax, et on a vraiment un parallèle. C'est ça qui m'a fascinée en analysant les ragas et en travaillant bien sûr depuis toujours l'analyse des sonates de Beethoven, de voir à quel point dans la construction mentale de l'être humain, on arrive à un degré de beauté qui est similaire, même avec des cultures très différentes. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement moderne, et j'ai l'impression que Beethoven en était convaincu, d'où sa curiosité. En tout cas, je ne vais pas parler à sa place, mais ce qui est vraiment flagrant, c'est cette idée de trouver le sens de l'humain dans sa musique, le sens de l'homme dans la place du cosmos, de l'homme dans l'élévation, voilà, l'homme au centre de l'univers. Et je trouve que ça, c'est vraiment très émouvant de voir Beethoven aussi ouvert d'esprit.
Le joueur de tabla et de sitar qui vous accompagne sur ce disque, comment ils ont appréhendé, vu, abordé ce que vous leur proposiez, c'est-à-dire Beethoven et l'Orient dans ce disque-là?
Alors évidemment, ils étaient très intrigués. Ils connaissaient Beethoven de nom, mais ne connaissaient pas vraiment profondément. Donc j'ai passé du temps à leur faire écouter les sonates, à expliquer la construction. Ils ont été bouleversée par Beethoven, par la force, la profondeur. Donc là, à nouveau, c'est très beau de voir que des personnes d'une culture si lointaine peuvent être bouleversées. D'ailleurs, je l'ai vécu en Inde, quand j'ai joué Beethoven en Inde à des gens qui ne l'avaient jamais entendu. Et puis, ce qu'on a fait ensemble, c'est de prendre les intervalles de Beethoven, donc de la Passionata ou du Clair de Lune, et reprendre ces tonalités dans leur raga. Donc, ils ont pris les leitmotifs beethoveniens et ils ont fait une improvisation dans la forme d'un raga pour ce disque. Donc, ça a été vraiment fait vraiment de façon très spécifique.
On va en écouter un extrait de ce disque. Évidemment, ça donne envie. J'ai dit la sitar. Évidemment, c'est le sitar. Excusez-moi. Voici l'allegro assai de la sonate Appassionata de Beethoven. Shani Di Luca au piano, Mebob Nadem au sitar, décidément, Mitel Purohit, joueur de tabla. Un extrait du mouvement Allegro assai de la sonate numéro 23 de Ludwig van Beethoven, interprété par Shani Di Luca, et vous l'avez entendu, Mebob Nadem au sitar et Mitel Purohit tabla, sans doute l'un des projets les plus insolites de l'année Beethoven de l'an dernier. Shani Di Luca, vous êtes notre invitée ce matin, entre autres pour nous parler de ce disque qui s'écoute d'ailleurs comme une invitation au voyage et à la méditation d'ailleurs.
Oui, l'idée c'est d'avoir une réflexion par le biais de la musique et par les profondeurs beethoveniennes. Là en l'occurrence, le tabla va apparaître plus tard lors d'une cadence comme un Orphée qui surgit de l'abîme beethovénienne. Mais c'est vrai que l'idée c'était vraiment plutôt, ce n'est pas de la fusion, c'est vraiment un dialogue et une réflexion sur cette écoute entre les cultures. Je pense que Beethoven nous donne une leçon d'humilité et même d'intérêt sur l'autrui. L'autrui est une inspiration et je crois qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de cette bienveillance.
Et donc on l'a vu et puis vous nous en avez parlé, il s'était vraiment esprit de passion pour ce livre du 19e siècle, en tout cas traduit, et qui lui avait été donc mis à disposition de toute cette culture indienne, etc. Et il y a aussi une force un peu extraordinaire que vous, dont vous parlez souvent, qu'il lui-même était sourd. Il y avait aussi, dans la méditation, il y a ça, il y a la force de la spiritualité, du cerveau. Et l'envie de continuer, toujours, une force.
Oui, alors pour, évidemment, Beethoven, par sa surdité, a fait un chemin qui lui est propre, en passant par le testament d'Heiligenstadt, mais par son génie, une force créatrice, c'est-à-dire que cet handicap est devenu un moteur de création, et certainement son génie accompagne tout cela, c'est-à-dire le génie qu'on ressent dès ses premières œuvres. Mais il est évident que ces résonances particulières qu'on retrouve dans l'écriture beethovenienne, notamment pour ce travail de pédale qui est assez particulier dans les sonates de Beethoven, dans ce travail de tessiture qui est très moderne, puisque vraiment Beethoven va révolutionner le langage, et son travail avec les facteurs de piano, lui qui cherchait de plus en plus de résonances, ces harmoniques qui certainement habitaient son esprit, donc avec des sons inédits qu'on a encore aujourd'hui. Il faut avoir le courage de garder les pédales beethoveniennes, même si les pianos sont modernes, d'avoir dans l'esprit ces résonances, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et dans les sitars, dans la musique de sitar et tabla, il y a ces quarts de ton, il y a ces résonances aussi qu'on retrouve. Et je me suis dit que voilà, ce mariage pouvait être vraiment intéressant dans ce spectre sonore qui n'est pas si lointain au final.
Et Beethoven qui sera donc au programme avec ce jeu de pédales justement. Vous serez en concert ce dimanche 29 août au Festival Les Solistes à Bagatelle à 16h. Vous interpréterez sa sonate Les Adieux et l'autre Clair de Lune, Beethoven, et puis également Schubert Liszt et puis Wolfgang Rihm. Ça c'est ce dimanche, et puis d'autres projets parisiens en novembre. Le 14, où vous serez avec Pierre Fouchonneret et Nathalie Dessay à 11h. Le 14 novembre, au Théâtre des Champs-Élysées, avec un disque, un projet autour de Proust et donc un futur disque. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Écoutez, finalement, le programme de dimanche, c'est vraiment ma période viennoise. Je l'ai préparé avec Elisabeth Leonskaya, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment un aboutissement de le jouer ici à Paris. Et puis, il y a ce répertoire français, l'âge d'or de la musique française, qui sera donc le sujet de mon prochain disque chez Warner Classics, autour de La Recherche du Temps Perdu de Proust. Donc, tous les compositeurs aimés et cités par Proust dans La Recherche du Temps Perdu. Et Jeannine Rose, qui a fait confiance l'année dernière, c'était mon dernier concert à Paris, en février, avant le Covid, le 23 février, a fait confiance pour ce projet Cosmos de l'année dernière. Et là, elle me refait confiance sur ce projet Proust. Donc, je suis très heureuse de jouer dans ce concert du dimanche matin, donc le 14 novembre, avec comme invitée Nathalie Dessay, qui fait partie aussi du disque, puisqu'elle a enregistré des mélodies qui sont vraiment citées par Proust. Et puis, j'ai aussi un moment assez émouvant le 18 novembre avec Hervé Niquet, l'Orchestre de Paris, où je jouerai le très rare concerto de Reynaldo Hahn, qui a été créé il y a pratiquement un siècle au même endroit par Reynaldo Hahn et Magda Taliaferro. Et ça n'a jamais été rejoué depuis, donc ça va être une sorte de redécouverte. Mmh. Et ça fait partie aussi de ce disque Proust, puisque Proust et Reynaldo Hahn avaient une relation très intime.
Absolument. Chani Di Luca, donc en concert à Bagatelle ce 29 août et donc en novembre les 14 et 18 au Théâtre des Champs-Élysées. Chani Di Luca, on le voit, vous êtes très ouverte par vos répertoires, la musique d'aujourd'hui, le grand répertoire, des récitals, concertistes, chambristes, et puis le cinéma aussi, la poésie. Vous avez publié un recueil de poésie qui s'appelle Canopée, qui est sorti en 2018. C'est vous qui avez écrit les poèmes ?
Tout à fait. En fait, je ne peux pas concevoir un monde sans poésie et sans musique. Et depuis mon adolescence, j'ai toujours un carnet avec moi. Donc, dans les escales, dans les moments de silence qu'on a si souvent en tant que soliste, dans les chambres d'hôtel, j'écris sans cesse entre les partitions. Et donc, les éditions Art 3 voulaient éditer en fait mes livrets de disques. Et finalement, ils ont voulu éditer une partie de mes poèmes. Donc, c'est un choix parce que j'en ai écrit plus de 500. Mais je sors le second recueil au printemps prochain.
Ah. D'accord.
Donc voilà, la poésie m'accompagne.
Et vous dites que vous écrivez des poèmes. Est-ce que vous écrivez de la musique aussi, la composition? Ça vous tente?
Alors écoutez, quand j'étais enfant, j'étais plus connue comme compositrice que pianiste. C'est-à-dire que j'ai beaucoup composé entre l'âge de 7 ans et 15 ans. Et tout en faisant mon piano.
C'est pas banal comme réponse.
Mais au fur et à mesure que je côtoyais Mozart, Beethoven et Bach, je trouvais que ce que je faisais était tellement trop simple et que l'expérience de ces grands compositeurs était pour moi plus enrichissante parce que je me sentais pas à la hauteur en tant que compositrice. Donc j'ai arrêté net de composer, même si je garde ça dans ma tête toujours quand j'improvise. Mais c'est vrai que là, vraiment, je me suis consacrée, surtout quand j'ai la chance d'avoir rencontré des grands maîtres.
Bien sûr.
Je sens que c'est une responsabilité de pouvoir transmettre leur savoir aujourd'hui.
La création par l'interprétation et puis quand même aussi l'écriture de la poésie. Donc on pourra reparler de ce nouveau recueil de poésie. Shani Di Luca, une dernière question avant de se quitter. Déjà, quel est le lieu où vous iriez? En écoutant quelle musique et avec qui pouvez-vous nous dévoiler ça?
Alors, il y a beaucoup de noms qui me viennent à l'esprit, évidemment Clara Askill ou Kleiber, mais ce sont des gens qui sont dans le silence et dans le mystère. Et finalement, j'ai découvert grâce à Elisabeth Leonskaya récemment, on regardait ensemble des vidéos de Sander Weg. Et j'aimerais vraiment imaginer des balades en forêt avec Sander Weg, en écoutant Schumann, par exemple, le paradis et la pairie, et comprendre cet instinct musical et puis en même temps cette connaissance, puisqu'il a travaillé avec Kodály et Bartók. En tout cas, il a joué beaucoup d'œuvres de Bartók. Et quel est ce mystère entre la structure, la profondeur de ces grandes musiques et le lien avec la nature et le folklore? Donc j'aurais adoré passer du temps avec Sander Weg.
Merci beaucoup, Shani Di Luca, d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite de bons concerts en Autriche et à Paris.
Merci.
Et partout ailleurs dans le monde. Merci pour votre ouverture. Et vous voici dans une pièce que j'aime beaucoup, que vous avez interprétée, l'Allegro du concerto en ré mineur de Carl-Philippe Emmanuel Bach.
Merci.
Très bonne journée.
Bonne journée.
Thank you.
Un extrait du premier mouvement Allegro du concerto en ré mineur de Carl-Philipp Emanuel Bach, interprété par l'Orchestre de Chambre de Paris, dirigé par Ben Klasberg et Shani Di Luca. Au piano, et c'est avec Carl-Philipp Emanuel Bach, bien-aimé de Beethoven, que nous nous quittons pour ce Musique Matin, ce matin. La réponse à notre jeu, l'ensemble Solazzo, est un ensemble suisse qui s'est formé à Bâle. Bravo à vous, trois gagnants ce matin, Brigitte à Brunois, Muriel au Haut-de-Caux et à Jean à Bordeaux. Merci à toute l'équipe de Musique Matin. Valentin Carpentier, Margot Muller, Thaïsia Froidure à la réalisation et à la technique avec nous ce matin, Jean-Frédérix et Frédéric Kiefer. Je vous retrouve demain à 7h30 et à 8h30, nous recevrons le contre-ténor Damien Guillon. Tout de suite, c'est l'été classique de Judith Chen. Bonjour chère Judith.
Bonjour chère Gabrielle.
Comment vas-tu? Comment allez-vous?
Mais très bien, joyeusement, c'est la rentrée.
Est-ce qu'on va écouter de l'opéra?
Un tout petit peu, lettre d'amour. Sinon ce sera du soleil, des oiseaux.
Tout va bien, merci beaucoup Judith, bonne émission.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.